Le voyage par Théodore de Branville. Chapitre 1er. Un voyageur. Mon cher ami, vaut-il mieux voyager ou ne pas voyager? À nous deux, nous possédons certainement les lumières nécessaires pour résoudre cette question compliquée. En effet, vous êtes toujours sur les rails brillants comme l'or ou sur les flots tumultueux. Quand vous ne partez pas, vous arrivez. Sans cesse, vous vous élancez éperdument vers les cieux brûlés de flammes, jonchés de roses, vers les fleurs surnaturelles, vers les femmes qui ressemblent à des enfants et à des bêtes, et qui ont encore gardé un peu d'imprévu dans leur sourire. Moi, au contraire, je ne suis jamais allé nulle part, ni revenu de nulle part, et je ne suis encore arrivé à connaître qu'un très petit nombre des rues de Paris. Mais je vais vous mettre mon cœur à nu. Je suis extrêmement confiant. Les méchants disent crédules. Je crois tout ce qu'on me dit, et cela m'a aussi bien réussi que si toutes les paroles humaines m'avaient fait l'effet d'autant de mensonges. Eh bien, les pieds posés sur les chenets, commodément assis dans mon fauteuil, depuis que j'ai pu avoir un fauteuil, j'ai lu les récits de presque tous les voyageurs depuis ce divin menteur d'Hérodote jusqu'à vous. Or, il y a un point sur lequel vous êtes tous exactement d'accord, c'est que le plus grand, le plus sérieux plaisir du voyage consiste à en être revenu. Je ne suis pas entêté, je vous ai cru sur parole, et ce plaisir, tous les jours que Dieu fait, je le savoure du matin au soir. Je goûte l'immense joie de me figurer que j'arrive du Tonkin ou de Yedo, ou de l'Inde au monument découpé comme une dentelle, et de retrouver avec ravissement la terre bénie où les femmes savent marcher dans la boue sans se crotter, où tout le monde a de l'esprit, évite le lieu commun, parle rapidement avec de prodigieuses ellipses, où il y a des livres, des relieurs, où les beefsteaks ne sont pas faits comme en Italie, avec du veau, et où on peut passer tant d'heures délicieuses à regarder les estampes et les antiquités sur le quai Voltaire. Chapitre 2e. Cependant, je veux tâcher d'être juste et de ne pas faire pencher empiriquement la balance comme un marchand qui serait dépourvu de probité. Dans le voyage, il n'y a pas que le bonheur de revenir. Il y a aussi le bonheur de partir, qui est immense. Oh, extase! Sentir avec intensité qu'on est enfin délivré, qu'on s'évade, qu'on ne rencontrera plus les mêmes faces bêtes aux favoris désagréablement taillés, qu'on ne respirera plus l'air souillé par les vilaines haleines viciées et vicieuses, qu'on n'ira plus au bois, ni à la comédie, ni dans le monde, et qu'on pourra mystérieusement contempler des étoiles nouvelles, non ternies par les vagues regards des imbéciles. Oui, partir. C'est la plus complète de toutes les félicités. Mais, il y a toujours un mais, elle est surtout ressentie par ceux qui ne sont pas destinés à partir et qui ne partiront pas. Mon enfant, ma sœur, songe à ta douceur, d'aller là-bas, vivre ensemble. Aimer, s'écrit Baudelaire, dans cette invitation au voyage où il promet à la bien-aimée les ciels brumeux, la chambre au riche plafond semée d'objets luxueux et rares, et les navires à l'humeur vagabonde, prêts à s'envoler pour obéir au moindre caprice de la jeune reine. Hélas, qui ne le voit? Les amants ne partiront jamais, et le pays où tout n'est qu'ordre et beauté serait trop parfait pour être jamais habité par des figures mortelles. Et là, dans ce clair et pâle paysage au gazon ras, près de cette onde où flotte le vaisseau pavoisé que pousse le souffle des petits désirs, vermeil comme de pâles roses, dans cette solitude enchantée où Watteau nous montre, pâle, jaune, charmant, enamouré, profondément triste, vêtu de soie et de satin, les pèlerins de l'embarquement pour Cythère, ne devinez-vous pas qu'ils ne s'embarqueront jamais? Ah, s'ils pouvaient, rester unis, monter en effet sur la nef légère, sortir sains et saufs de l'inévitable tempête qui fatalement les submergera. S'ils pouvaient aborder à l'île qui fut la gloire de la mer Égée, ils verraient que les rosiers et les myrtes sont morts, que Vénus elle-même est morte et que, parmi les débris de son temple renversé, blanchissent des ossements et se tordent de hideux nœuds de serpents. Mais cette désolation leur sera épargnée. Ils ne sauront jamais ce que Cythère est devenu, parce qu'avant de partir, Sylvandre, Myrtille, Lycas, Aminte, Églé, Phyllis seront morts d'amour, d'alanguissement, de joie et de tristesse. Chapitre 3e. Pour moi, mon ami, je vous le répète, je ne suis jamais allé nulle part, parce que dans les temps romantiques auxquels j'appartenais, personne n'avait d'argent et n'en gagnait, il n'avait aucun moyen de s'en procurer. Les peintres peignaient tout de chic, sans modèles et sans accessoires, et ne pouvant aller voir les pays, les poètes, par un audacieux effort, se les rappelaient pour les avoir vus pendant les existences qu'ils avaient vécues antérieurement. C'est ainsi que Mary devina, ou se rappela l'Inde, de façon à stupéfier les voyageurs les plus authentiques par l'exactitude merveilleuse de ses descriptions. De même, on le sait, après l'avoir vue en cette vie mortelle, Théophile Gautier sut admirablement peindre Venise d'or et de rose dans les douces pourpres de son ciel. Mais il l'avait peinte mille fois mieux encore, avant de l'avoir vue ou revue, car sans doute l'aspect brutal de la réalité récente troubla la vision de la ville de rêve qu'il avait adorée dans le temps où Arlequin et Polichinelle existaient encore et où Narissa la folle, en ôtant son masque noir, apparaissait blanche comme un rayon de lune. Pourtant, soyons justes, on ne saurait aller trop loin pour voir un ton amusant et spirituel ou pour trouver une métaphore non encore imaginée. Mais la question se pose à nouveau, plus impérieuse. Qui découvre ces enivrantes merveilles? Est-ce l'homme qui court après la fortune ou l'homme qui l'attend dans son lit? Qui, dans ses drames, fut plus grec et plus italien que le sédentaire Shakespeare? Il connaît le ciel d'Athènes, sur lequel se découpent les images des dieux, et la Rome turbulente de Coriolan, et lorsque vous marchez dans les nobles et silencieuses rues de Vérone, vous reconnaissez que le poète de Roméo et Juliette vous en a donné l'impression exacte. Un autre génie, qui ne passa pas son temps à faire et à défaire des mâles, fut Rembrandt, ce colosse en qui nous devons adorer non un grand peintre, non le plus grand des peintres, mais la peinture elle-même, et qui ne sortit jamais de sa ville natale. Cependant, il connut plus de choses qu'il n'est permis à des prunelles humaines d'en contempler jamais, car lui seul a vu l'ange fulgurant s'envoler dans un vivant rayon, et lui seul aussi a vu le calme visage de Jésus plein d'une profonde et sereine pitié. C'est par une imitation, outrecuidante sans doute, de ces maîtres auxquels il faudrait plutôt ressembler par leur beau côté, que chez les romantiques, la mode consiste, comme je vous le disais, à demeurer immobile comme le colimaçon dans sa coquille. Mais la mode, si persuasive qu'elle soit, ne peut rien contre l'influence des étoiles, et deux des plus charmants romantiques, Gautier dont je vous parlais tout à l'heure et le doux Gérard de Nerval, étaient nés sous l'astre qui fait les Robinson Crusoé. Et tous deux, nés mille fois plus voyageurs que Robinson, ils adoptaient, sans nulle opposition, les mœurs, le costume, les opinions et même les dieux des pays qu'ils traversaient et qui devenaient les leurs. Chapitre 4. À Constantinople, Gautier portait le fez et fréquentait les mosquées. Après avoir été bien prié par lui, les dieux de l'Égypte ne le défendirent pas contre l'accident qui lui cassa un bras, malentendu qu'il ne comprit jamais. Gérard, doux et naïf comme un enfant, était connu de tous les dieux, ce qui le fit accuser de folie. D'ailleurs, pour se soumettre aux coutumes de ses hôtes, il se mariait généralement dans les contrées sans pour cela vouloir du tout imiter la méchanceté de Don Juan. Le grand peintre Eugène Fromentin coucha beaucoup de nuits sous la tente, dans le Sahara et dans le Sahel, qu'il sut aussi décrire en grand écrivain. Il a tout vu, tout entendu, tout noté, les ciels, le silence, les suaves gris caressants de l'atmosphère, et certes, il a connu l'Orient, et il nous l'a donné, vivant et sincère, oui, mais de Caen aussi nous l'a donné, et savez-vous où il voyait surtout l'Orient? Dans les clairières sablonneuses de la forêt de Fontainebleau, et dans ses cirques entourés de roches. Là, il se couchait sur le ventre, et vu de près, le sable lui donnait l'impression du désert, et les tout petits brins d'herbe, celle des palmiers. Il peignait ainsi, d'après nature, sans que la nature pût même s'en douter, ce qui me paraît être le dernier mot de l'astuce. D'ailleurs, pour conclure, je pense qu'à propos de voyage, comme à propos de toutes les autres choses, il ne faut pas faire le malin et dire « Fontaine, je boirai » ou « Je ne boirai pas de ton eau ». Dans la préface de son premier volume, Théophile Gautier déclarait nettement qu'il n'écrirait jamais d'autre livre et que, détestant la locomotion, il ne quitterait pas le coin de son feu et son chat favori, ce qui ne l'empêcha pas de voyager dans le monde entier et de se faire faire en Espagne un habit rutilant avec un pot de fleurs dans le dos. comme Ottfried Müller nia la divinité solaire d'Apollon effectuée par un coup de soleil, de même, lorsqu'on construisit le chemin de fer de Saint-Germain, M. Thiers déclara que jusqu'à Saint-Germain, cela se pouvait, mais que, sous aucun prétexte, un chemin de fer plus long ne pourrait fonctionner. Et cependant, les rails, les wagons, les locomotives sont encore là d'avoir tous vu son chapeau gris lorsqu'il voyagea pour libérer le territoire. Quoi ? Mourir sans avoir rien vu ? Quelle démence ! Mais l'éther est plein d'univers, de mondes, de troupes d'astres que le rythme entraîne. Et après ces mondes, d'autres, d'autres et d'autres encore. Et quand on aura vu un tout petit bout de cette terre déplorablement exiguë, voilà-t-il pas une belle avance ? Ainsi s'achève le voyage par Théodore de Branville.